bien meilleur que ça. Voilà, c'est vrai qu'on se connaît depuis pas mal de temps avec Alain. Je me souviens de ce jour où il n'y avait que quelques mois que j'étais rentré dans le ministère à plein temps. Et mon pasteur m'a dit, va à l'hôpital, va voir un petit garçon, là-bas tu vois, il est très 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 malade, mais tu vas voir comme il aime le Seigneur. Alors j'ai vu ce petit garçon qui depuis a grandi, je vois même qu'il a mis des cheveux blancs. Quand j'allais partir, il m'a dit, mais ne partez pas, parce que ma maman va arriver, vous ferez sa connaissance. Et alors la maman est arrivée, mais on se connaissait déjà depuis pas mal de temps, c'était une ancienne collègue de travail. Quand on s'était perdu de vue, je n'étais pas marié, ni elle non plus, je crois. Alors oui, ça faisait très loin. Et quel bonheur de le voir encore au service de Dieu avec Hélène, tous les deux. Je les apprécie beaucoup. Merci pour leur invitation. Et merci à vous tous pour votre accueil. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà, je ne pensais pas qu'arrivé à mon âge, je devais encore prêcher l'Évangile. Mais voilà, ça continue, c'est comme ça. Et ma foi, je prie que Dieu m'accorde sa grâce. Je suppose que vous avez beaucoup prié. Car il y a pas mal d'églises qui ont prié pour moi. J'ai été très, très, très malade. Du 31 janvier jusqu'à la mi-février, je suis passé 3 fois par les urgences, vous n'avez qu'à voir, et j'ai cru que je ne serais jamais venu ici, et il y a 15 jours de cela, 2 semaines de cela, j'étais à Brest même, vous n'avez qu'à voir. Et un mois avant, je ne me sentais pas en condition, je craignais de devoir dire que je ne pourrais venir, et puis le Seigneur, depuis quelque temps, en notre Dieu est un Dieu formidable, un Dieu extraordinaire. Amen. Alors j'ai tous mes voisins, mes voisines plutôt, parce que je suis en maison de retraite, figurez-vous. Ça fait scandale quand on a appris que Gisquet rentrait en maison de retraite. Je vous rassure, je suis dans la partie des studios, des petits appartements. Voilà, et il n'y a que des dames sur mon étage, et quand j'étais très malade, elles se sont bien pris soin de moi, elles s'occupaient toujours des nouvelles. Le monde est formidable, je suppose qu'à Annecy, les gens sont aussi formidables. Que Dieu soit béni. Voilà, on va parler sur la famille. Alors on va un petit peu, je vous donne le programme rapidement. Ce matin, c'est comme une introduction, vous allez voir. Hein, nous allons parler, vous voyez, c'est le titre de la série de réunions, La famille, le lieu de vie par excellence. Je pense que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec ce titre. Le titre autrefois, c'est pas celui-là. C'était La famille, source de bonheur, source de cauchemar ou d'échec. Les gens m'ont dit, quand même, tu as un titre terrible. Alors, ce titre, je l'ai changé, et j'ai mis cela, La famille, le lieu de vie par excellence. Alors, ce titre, on l'a donné il y a quelques années, lorsqu'à Montauban, il y avait un rassemblement d'église, et là, il y avait même les autorités administratives, Madame le maire, il y avait des députés, je crois qu'il y avait tout un tas de personnalités qui étaient là, et c'était cette étude qu'on a fait ensemble devant toutes ces personnalités. Alors ce matin, ça va être une introduction. Cet après-midi, normalement, on devait examiner les problèmes de couple. Mais j'apprends qu'ici, le mercredi, il y a l'école. Alors on va changer, cet après-midi, ce sera le salut des enfants. Est-ce que vous croyez au salut de vos enfants?
Amen.
Est-ce que vous souhaitez que vos enfants soient sauvés?
Amen.
Alors si c'est le cas, je souhaite que vous serez là cet après-midi. Mais pas tout seul. Je veux les enfants.
Amen.
Je veux les enfants. Parce qu'à un moment donné, dans le cours de la prédication, je vais vous abandonner. Vous allez me prêter vos enfants pendant quelques instants. Et j'ai un petit moment en aparté avec eux qui ne vous regardent pas. Mais c'est quelque chose d'important. Vous avez compris? Alors, n'hésitez pas, vous venez avec vos enfants, je ne sais pas où on se mettra, par ici, il me faudra une chaise parce que faut que je me mette à leur hauteur, hein. Il faudra arranger cela, vous verrez. C'est un moment formidable, je sais que vous êtes très curieux, étendre les oreilles comme ça, mais ça c'est défendu. Vous me bavarderez entre vous, mais vous ne nous laisserez pas parler un moment avec les enfants. Demain soir, nous verrons donc les problèmes de couple, les conflits, les difficultés relationnelles dans le couple, et on essayera aussi surtout de trouver la solution. Je ne dis pas les solutions, mais je dis la solution. Parce qu'avec le Seigneur, il y a une solution, et moi je vous dis que celle-là, elle est efficace. Alors, ne le perdez pas de vue. Mardi soir, nous parlerons des relations du couple croyant avec leur environnement. tous ces gens qu'ils côtoient, non seulement à l'église, mais dans leur famille réciproque, de l'époux, de l'épouse, les relations avec les voisins, les relations sur le monde du travail, etc. Comment le couple doit-il vivre ces choses-là? Et enfin, mercredi soir, ça sera une réunion assez difficile qui va se faire en deux temps. Nous parlerons du divorce, le drame du divorce, et ensuite on verra cette question très épineuse, très contestée, du remariage des divorcés. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse, vous avez dit, mais moi ça va, écoutez-moi, moi je vous conseille tous, parce que peut-être le divorce ne vous intéresse pas aujourd'hui, vous n'êtes pas concerné, que Dieu soit béni. Et je vous souhaite que vous n'en soyez jamais, que vous ne viviez cette douloureuse expérience. Mais, en apprenant ce que dit la Bible, vous pourrez peut-être aider des couples qui battent la chamaille et qui sont au bord de la rupture. Et je crois que c'est pas seulement au travail des pasteurs d'aider les couples en difficulté, mais c'est le travail de chacun des croyants. Voilà. Est-ce que le programme vous plaît? Sois pas là où vous êtes enchanté. De toute façon, j'ai pas autre chose à magasin. Il faut que vous le sachiez. Voilà. Alors, je dis la famille, le lieu de vie par excellence. Vous devez dire, ma foi, ma famille, elle traverse des vagues. Voilà. Alors, aujourd'hui, que faut-il penser et dire sur la famille? Je dis aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, dans cette mentalité qui nous entoure, c'est une mentalité qui est en crise. Et au niveau famille, il y a une grave crise. La famille est le sujet de beaucoup de conversations. Vous l'avez remarqué. Les débats, des manifestations de masse autour de la famille et du mariage, bien entendu. Nous assistons à des prises de position que je dirais radicales, parfois violentes. Il y a également certaines de ces positions conduisent à des conflits terribles, à des manifestations humaines en général, mais également des cas particuliers. Nous savons également que les coutumes, les traditions d'un pays à l'autre, et parfois dans le même pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, et les traditions jouent un rôle important sur l'affaire de la famille. Et il s'agit sur les mœurs, sur les valeurs morales de chacun. Parce que la morale, qui est pourtant, selon Dieu, quelque chose de très bien, d'établi, de solide, ça navigue au milieu de tout un tas d'idées particulières. Alors, comment on va faire? Les anthropologues, quand ils étudient la question, avec les ethnologues et les sociologues, ils considèrent que les systèmes familiaux varient selon les diverses cultures. Mais il y a un fil conducteur qui est général, c'est celui-ci. On va le trouver là, vous allez voir. Alors, les formes de famille, ça c'est comme ça, vous allez voir. Alors, la première forme que nous trouvons, c'est la famille nucléaire. Rassurez-vous, c'est pas une bombe, hein, ça n'a rien à voir. Mais la famille nucléaire, c'est qui, c'est quoi? C'est un papa, c'est un homme et une femme, mariés ou non, tenez bien, reprenez les choses, et qui vivent avec leurs enfants. La famille élargie, c'est cet homme ou cette femme qui, marié ou non, avec des enfants, mais qui est élargie avec les parents de l'un ou de l'autre. Il y a une autre famille, c'est la famille recomposée. La famille recomposée, c'est quoi? Eh bien, c'est un homme, c'est une femme qui, suite à un veuvage ou un divorce, ont formé un nouveau couple, et également avec des enfants ou pas des enfants. Ensuite, il y a la famille monoparentale. C'est un homme ou une femme seule, avec ou sans enfants. Et puis ensuite, bien sûr, une nouveauté, c'est la famille homosexuelle. On ne va pas étudier tous ces cas en particulier. Nous allons simplement retenir que parmi tout cet imbroglio qu'il y a là, il va falloir faire un choix de vie. Il va falloir choisir sa manière de vivre en couple. Et on va essayer de voir la chose de plus près. Les origines. Voilà, les origines de la famille. Vous avez remarqué que je dis selon le livre, la Bible. Est-ce que vous croyez à la Bible?
Amen.
Est-ce que vous pensez que on peut se fier à la Bible?
Amen.
Est-ce que vous avez l'habitude de lire la Bible?
Amen.
Et Et est-ce que vous avez l'habitude de serrer les paroles qu'elles contiennent, de les serrer dans votre cœur? C'est bien. Alors, l'origine de la famille se situe à la création. Et c'est là que nous allons nous plonger, si vous le voulez bien. Alors, quelques exemples de famille dans la Bible, parce que il n'y a pas énormément de passages dans la Bible, de passages sur la famille. Mais il y en a quelques-uns, et quelques-uns, ceux-là, ils ne sont pas très élogieux. Regardez plutôt. Le premier couple que nous trouvons, Adam et Ève, et je dis que leur particularité, c'était la désobéissance. Ils se sont mis d'accord pour désobéir à Dieu. Une autre famille, c'est un certain Lémec. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, si vous avez trouvé son nom. C'est le premier polygame que nous trouvons. Ensuite, nous trouvons Abraham. Je sais que vous êtes tous admirateurs devant Abraham, mais moi je l'ai appelé le lâcheur. Savez-vous ce qu'il a fait? Il avait la particularité d'avoir une femme très belle. C'est curieux, parce qu'une femme est belle, elle attire pas mal des regards. Alors, comme il voyageait beaucoup, il a eu peur parfois d'être tué, parce que alors il disait à sa femme, à Sarah, tu diras que tu es ma sœur et que je suis ton frère. C'était moitié vrai, moitié faux, mais il a lâché sa femme. Le résultat, c'est qu'il a failli, Sarah a failli avoir des aventures. On ne sait pas, la Bible ne dit rien, mais ça a été dangereux pour elle. Un autre, il s'appelait Jacob. Lui, je l'appelle le trompeur. Il a trompé son père. Il a trompé son frère. Il a trompé son père. Il a trompé. Vous voyez, et pourtant, cet homme-là, en trompant, c'était pour obtenir la bénédiction de Dieu. C'est curieux, cet homme-là. Mais voilà. Ensuite, il y en a un autre, c'est Ruben. C'est le fils de Jacob, Ruben. Et il a été incestueux avec la concubine de son père, qui était la servante de sa maman. Voilà qui était notre ami Ruben. Excusez-moi, j'ai des problèmes. Hein. Ensuite, nous en trouvons un autre qui s'appelait David. David, l'homme selon mon cœur, disait Dieu. Et pourtant, il a été adultère, il a été criminel. Ensuite, on aurait pu parler d'un certain chrétien de l'église de Corinthe. Il était incestueux avec la femme de son père, qui n'était pas sa mère, bien sûr. Vous allez me dire, et c'est avec des exemples comme ça que tu vas nous enseigner? Eh bien oui. Oui, pourquoi? Parce qu'il est écrit ceci. Pourquoi ces exemples qui choquent, qui nous heurtent par leur grossièreté? Parce que dans les Corinthiens, chapitre 10, verset 11, il dit « Ces choses sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Si je comprends, nous qui sommes proches du retour du Seigneur, c'est pour nous que ces choses ont été écrites. Et elles ont été écrites pour nous servir d'exemple, non pas pour les imiter, mais pour les éviter, vous l'avez compris. Et l'apôtre reprend cette même pensée. Et il dit ceci en Corinthiens 16. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et écoutez la suite. Pas de mauvais désirs comme ils en ont. Ce qui veut dire que tous ces exemples sont des exemples mauvais. Et nous ne devons pas suivre ces exemples. Alors je comprends pourquoi l'apôtre Paul nous dit cette parole formidable. Alors, Romains 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Est-ce que vous êtes intéressé par la volonté de Dieu? Est-ce que vous êtes intéressé par ce qui est bon? Est-ce que vous êtes intéressé par ce qui est agréable et parfait? Alors que dit l'Écriture? Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous vivons un siècle de violence, un siècle de désordre, d'immoralité, où tout est changé. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. C'est comment dire, on vit des mœurs contre nature, il y a même des lois pour les approuver, etc. etc. Alors voilà pourquoi il dit... Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je suis surpris lorsque des croyants pensent comme le monde Ils disent, mais pasteur, on vit en 2015 maintenant. Je suis au courant que nous vivons en 2015. Ça me rajeunit pas, mais c'est comme ça. Mais voilà. Voilà pourquoi il y a un homme qui a fait un jour une belle prière. Dans le psaume 119, verset 73, cet homme se tourne vers Dieu et il lui dit, tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Entendez cette prière. Il reconnaît, cet homme-là, que c'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui l'a formé. Mes amis, vous n'êtes pas un animal évolué avec des millions d'années, mais Dieu vous a créé tel que vous êtes. Et ça, c'est une bénédiction. Il y a un homme qui a dit ceci, « Je te rends grâce, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Quand je pense au turbulent que j'étais avant ma conversion, et que Dieu dit, « Je suis une créature si merveilleuse. » Vraiment, mis à part le péché, tout est merveilleux dans le corps humain. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors cet homme-là, il est censé, il dit, « Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. » Or, je ne sais pas si vous le savez, à chaque commandement, il y a une promesse. Et à chaque promesse, il y a plusieurs, à chaque commandement, il y a plusieurs promesses. Et à chaque promesse, il y a au moins un commandement. Alors, ça vaut la peine d'apprendre les commandements de Dieu. Est-ce que vous êtes décidé à les apprendre? Est-ce que vous en faites votre prière aussi? Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? Seigneur, donne-moi l'intelligence. Tous ensemble, Seigneur, donne-moi ton pour que j'apprenne tes commandements. Si vous avez été sincère, on apprendra ensemble de belles choses. Alors une base de référence, parce que bien sûr, puisqu'on parle de la famille, il faut trouver une bonne base de référence. Comme je vous l'ai dit, on a choisi la Bible comme base de référence. Pour méditer sur le thème de la famille, nous avons besoin de bases de référence. Et nous choisissons la Bible. Il y a énormément de bouquins dans les librairies aujourd'hui au sujet de la famille. De toutes sortes. On a une grande librairie à Montauban. Il y a tout un tas de choses là-dessus. Et il faut faire attention. Et même sur les comptoirs de librairie aujourd'hui de nos églises, il y a une ribambelle de bouquins qui parlent de la famille. Alors, mais, on va choisir la Bible. Alors, je vous précise tout de suite que tous les textes en blanc, ce sera le texte biblique. Hein? Le reste des commentaires, c'est un peu en couleur, mais c'est comme ça. Alors, un drame moral et spirituel. Et oui, des drames, il y en a dans la vie, et celui-là n'est pas des moindres. Écoutez plutôt. Psaume 2, versets 1 et 2. C'est Dieu qui parle et il dit ceci. Mais pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Loin de l'Éternel, c'est Jésus. C'est lui. Et l'Écriture de dire, mais pourquoi ce tumulte? Vous avez remarqué tout ce tumulte qu'il y a aujourd'hui autour du sujet de la famille? C'est impressionnant. Autour du sujet du mariage, c'est impressionnant. Et alors, c'est curieux, cette affaire-là. Mais regardez la suite. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Voilà ce que disent les païens. La religion, non, je veux être libre. Moi aussi, je croyais être libre autrefois. Mais depuis que j'ai connu la grâce de Dieu, je connais la vraie liberté. Alors, à l'égard de ce remue-ménage, cette manifestation, toute cette discussion contre la parole de Dieu, contre les décisions de Dieu, et contre la famille telle que le Seigneur nous envoie, il nous est dit que le Seigneur, qui siège dans le ciel, il rit et il se moque d'eux. Alors moi, depuis que j'ai appris que Dieu rit sur tout ce remue-ménage, je ne m'affole pas sur les pensées et tout ce qui court, les rues, je fais comme le Seigneur, j'attends que ça passe et ils verront le meilleur, si c'est le meilleur, il faudra qu'ils s'habituent. Alors, on va assister à la naissance de la famille. C'est assez intéressant. Il est écrit dans Genèse, au chapitre 1er, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et tout ce qu'elle renferme. » C'est-à-dire, il a créé tout le monde végétal et tout le monde animal. La terre était informe et vide, la rosée est tombée dessus, tout s'est mis à fertiliser, tout s'est mis à pousser, et les arbres ont poussé. Ensuite, toutes sortes d'animaux, le Seigneur les a créés, des animaux qui volent, d'autres qui marchent sur leurs quatre pattes, d'autres sur deux, d'autres qui rampent, d'autres qui nagent. Le Seigneur a créé tout ce monde-là. Et quand ce monde a été plein, du végétal, de l'animal, alors Dieu est allé pousser plus loin sa décision. Et il a dit ceci. Puis Dieu, Genèse 1, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, qui est sur les reptiles qui rampent sur la terre, etc. Dieu prend une décision, faisons l'homme, oui, mais à notre image. Il n'a pas pris une variété d'animal là, auquel il va donner toute une évolution, qui avec le temps va se transformer. Non, non, il a créé l'homme à son image. Il a pris de la poussière de la terre, nous dit l'Écriture, et puis quand il a eu la forme, il a soufflé dans les narines, et l'homme devint une âme nouvelle. Alors est-ce que Dieu a une tête comme la mienne, des mains comme les miennes, des jambes comme les miennes ou les vôtres? Non, Dieu est esprit. Voilà pourquoi il est écrit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais quelle est l'image et la ressemblance que nous avons avec Dieu? Eh bien, Dieu est un Dieu d'amour. Et il veut que l'homme soit amour. Dieu est intelligent, et il veut que l'homme le soit. Dieu est sage, et il veut que l'homme soit sage. Dieu est miséricordieux, il veut que nous soyons miséricordieux. Dieu est patient, et il aimerait que nous soyons patients. Dieu est la sainteté même, et il veut que nous soyons saints. C'est beau le projet de Dieu. Voilà pourquoi ce premier homme Adam, il était doté d'une intelligence formidable. Regardez plutôt. Genèse 2, 19, 20. Dieu créa tous les animaux et il les fit venir vers l'homme et l'homme Adam donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point une aide semblable. Un jour, Adam voit défiler devant lui tous ces animaux et il fait une remarque. Il y avait un mâle et une femelle. Un garçon et une fille, si vous préférez. Et il a donné des noms à tous. Je ne sais pas quelle université il est allé étudier, mais ça, il faut le faire. Est-ce que vous êtes capable d'en faire autant? Non, bien sûr. Et puis, au bout d'un moment, quand le cortège a fini de passer, qu'il a vu les quadrupèdes, les reptiles et compagnie, et qu'il a donné des noms, même les primates, lorsqu'ils sont passés, les a regardés particulièrement, parce qu'ils trouvaient une vague ressemblance avec l'être humain. Mais en fin de compte, il ne trouva point d'aide semblable. Il a dit, mais je suis seul. Je suis seul. Alors Dieu a poursuivi son travail de création. Il est formidable, le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, notre Dieu est magnifique. Ah, oh là là, je vois que vous écoutez, Dieu soit béni. Et alors l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Il n'a pas dit, je lui ferai un aide, mais une aide. Dieu n'a pas créé le premier couple que Dieu a créé, c'est pas deux hommes ou deux femmes. C'est un homme et c'est une femme. Alors, libre à vous, après, de vivre avec un homme ou avec une... Alors, si vous êtes un homme, vous vivez avec une femme, si vous êtes une femme. Mais je crains que vous commettiez une grave erreur. Enfin, bref, c'est... Alors, je lui fallait une aide semblable. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a fait dormir Adam, il lui a pris une côte et il a créé, comme dit l'Écriture, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte de l'homme qu'il avait prise, alors, et il l'amena vers l'homme. Alors, je ne sais pas si c'était un soir, si c'était un matin... Adam était là, cherchait toujours sa compagne, et voici ce qui s'est produit. Et l'homme dit, en voyant cette créature arriver, il a dit, voici cette voix, quand il a été émerveillé, il a vu ce chef-d'œuvre qui arrivait, il était émerveillé. Il a dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, et on l'appelait femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Adam a été émerveillé, et ils sont acceptés. Point final. Voilà. Et quand Dieu a vu qu'ils étaient d'accord, Adam acceptait volontiers, il a dit, il ne faut pas que je laisse les choses comme ça, il faut que je poursuive plus loin l'affaire. Et regardez plutôt. Et Dieu a établi une loi. Dieu les bénit. Genèse 1, 28, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Quand un garçon, une fille... s'acceptent mutuellement. qu'il décide de fonder un foyer. Dieu bénit.
Amen.
Dieu bénit. Quand nous sommes mariés, mon épouse, on n'était pas chrétien, ni l'un ni l'autre. Mais avec le recul du temps, j'ai compris que Dieu nous avait déjà bénis. Parce qu'on s'aimait beaucoup, on était très proches l'un de l'autre. D'ailleurs, nos fiançailles ont duré presque 4 ans, on n'avait qu'à voir. Mais c'était comme ça, j'avais des obligations à remplir, il fallait faire. Alors, Dieu les bénit. Alors, tout de suite, il a pensé que, déjà, la bénédiction, c'était bien, mais Dieu a pensé que ce n'était pas suffisant. Et c'est allé plus loin, regardez plutôt. S'il dit, Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et ils deviendront. Voilà 3 verbes. Quitter, s'attacher, devenir. Voilà. En effet, le petit garçon, il grandit, il devient un homme. La petite fille, elle grandit, elle devient une jeune fille. Et là, automatiquement, avant, on allait toujours se blottir dans les bras de papa et de maman, on voulait chercher des câlins là. Mais là, maintenant, il semble que on cherche les câlins chez quelqu'un d'autre. Hein? C'est comme ça que ça se passe, hein? Oui ou non? Et alors, le Seigneur dit qu'il quittera son père et sa mère. Alors, un jour, quand je citais là-dessus, je disais au papa et maman, oui, votre petit ou votre petite, il va grandir, il va vous quitter. Alors, il y a une femme qui a crié en salle, ah non! Elle a crié très fort. Elle a mis de la brillance, elle était dans la réunion, moi je vous le dis. Et oui, c'est ça. Il y a un transfert d'affection. Est-ce qu'on renie les parents? Mais pas du tout, pas du tout. Au contraire, on va leur faire des petits-enfants pour qu'ils soient papy et mamie. C'est quelque chose de formidable, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Alors, il quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Ça demande combien de temps pour s'attacher, d'après vous? Quand mon épouse est décédée, il y a 10 ans déjà, on allait fêter 56 ans de mariage. Pardon, 54 ans de mariage. Et aujourd'hui, si elle était là, on fêterait, à la fin de ce mois-ci, le 30, 64 ans de mariage. Hein? Et si vous me demandez, eh bien moi je dis qu'il faut toute la vie pour s'attacher à son mari. Parce qu'on évolue, en tempérament, en caractère. Et il faut veiller à une chose terrible qui abîme les couples, c'est la routine. Et alors, ce n'est qu'enfin qu'on devient une seule chair. On quitte l'affection primaire des parents pour se tourner vers l'affection du conjoint. On travaille à s'attacher et on devient une seule chair. Aujourd'hui, le monde a renversé ce programme, je peux vous remarquer. Ils se voient, on devient une seule chair dans une soirée, pour voir si on va s'entendre, et si ça fonctionne, alors on va peut-être quitter papa et maman. Mes amis, ça c'est la culture, ne vous conformez pas au siècle présent, ne l'oubliez pas. Alors voilà, c'est ce que Dieu a fait, c'est ce que Dieu a prévu, c'est la loi de Dieu. Alors, une promesse de Dieu. Hein, Genèse 12, 3. Vous connaissez, tout le monde le connaît. Dieu a dit, s'il l'a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je ne sais pas combien de familles vous représentez ici, mais entendez ce que dit l'Écriture. Dieu a pris une décision de bénir toutes les familles. Et ce verset doit être important. Pourquoi je dis important? Parce qu'il est 7 fois dans la Bible. Regardez. Ici, dans la Genèse, 5 fois dans la Genèse, 1 fois dans les Actes, qui s'adressent encore aux Juifs. Tout ça, c'est pour les Juifs. Et ici, ça concerne les païens, les non-Juifs. Dieu a même prévu que la bénédiction serait sur les non-Juifs, que son Saint-Nom soit béni. Alors, une promesse de Dieu pour aujourd'hui. Regardez bien, Galates 3, verset 8-9, l'Écriture. Vous avez remarqué que souvent, il est écrit, l'Écriture. Croyez, mes amis, croyez de tout votre cœur à ce qui est écrit là, dans ce beau livre, ça nous concerne. C'est quelque chose que nous ne devons pas perdre de vue. L'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens, ben nous, en par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Qui est-ce qui croit en Jésus? Qui est-ce qui croit en Dieu? Dieu, vous êtes bénis avec Abraham le croyant. Et Dieu sait s'il y a eu une bonne bénédiction notre brave ami Abraham. Alors, deux questions qui se posent quand même. Vous avez entendu, Dieu a décidé de bénir toutes les nations de la terre. Et regardez ces deux questions. Comment Dieu s'y prend-il pour nous bénir? Les gens me disent, mais pasteur, tu dis que Dieu nous bénit. Mais regarde tout ce qui se passe, ces couples en difficulté. Là, ils se maintiennent ensemble pour, à cause de l'opinion publique. Là, ils se sont séparés. Là, le mari fait ci, la femme fait ça. Il y a de la violence, il y a tout. Comment Dieu s'y prend-il pour nous bénir? Et ensuite, la deuxième question, est-ce que Dieu peut bénir n'importe qui? Question embarrassante, hein? Est-ce que Dieu peut bénir n'importe quoi? Alors, moi, je vais vous répondre. Dieu peut bénir n'importe qui, c'est ce qu'il veut, mais il ne peut pas bénir n'importe quoi. Ça, c'est une certitude. Alors, comment Dieu s'y prend-il? Voici la bénédiction en question. Acte 3, verset 1. Dieu disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta possession. C'est à vous, premièrement, c'était des Juifs. Ok, je crois savoir ce que c'est. On m'a prévenu, hein. Parlons de la technique, là. Dieu en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que le Seigneur, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous, béni, en faisant quoi? En détournant quelques-uns de vous de ses iniquités. Il y a une contestation? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Quelques-uns? Oh, c'est vrai, c'est chacun. C'est super la technique, vous avez remarqué? Oh là 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 là. Comment il faut faire, les amis? J'ai compris, on va le mettre ailleurs. Donne-moi l'autre. Non, j'ai pas besoin de béquille, tu me le donnes dans la main. Voilà. Voilà. Assez beau la technique, hein. Autrefois, on n'avait pas de micro, on n'avait rien du tout. On avait des grands auditoires. J'ai prêché à des auditoires de 3 ou 4 centaines de personnes. Et on criait, on se cabibait la gorge. Voilà, alors je reprends notre texte, acte 3, verset 26. Dieu en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Et la bénédiction ici, c'est de détourner chacun de vous de ses iniquités. Non pas quelques-uns, mais chacun. La bénédiction de Dieu pour le couple, c'est ceci, c'est que ce soit le garçon, que ce soit la femme, la fille, le mari ou la femme, chacun a besoin d'être détourné de ses iniquités. Souvent, et ma femme, et mon mari, arrête. Occupe-toi de ce que le Seigneur veut faire. Quand je lis ce verset, il me semble voir le Seigneur se présenter à quelqu'un qui a des choses à régler dans sa vie. Il lui tend la main et leur dire, allez, tu veux que je te détourne tes iniquités? Tu veux que je change ton caractère? Tu veux que je change ton vocabulaire? Tu veux que je change ta façon de faire, ta façon de vivre? Voilà. Pour la bénédiction, vous l'avez compris, il faut que l'un, le mari comme la femme, soit détourné de ses iniquités, que Dieu soit béni. C'est un beau programme, moi je vous le dis. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors l'œuvre de Jésus, parce que c'est là que nous devons savoir comment Dieu s'y prend pour nous détourner de nos iniquités. Dans Ésaïe chapitre 53, versets 5 à 6, il nous est parlé de « il ». Et ce « il » a un nom, c'est... J'ai pas entendu. J'entends pas beaucoup, là. Pardon, vous dites qui?
Jésus.
Ah, c'est Jésus. Eh oui, c'est Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce Jésus? À la crèche? Mais oui. Il parcourait la Palestine faisant du bien, guérissant de la pire du diable. Mais oui. Jamais on n'avait parlé comme cet homme. Mais oui. Il faisait tout à merveille. Mais oui. Mais aussi, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité, non pas de quelques-uns, mais de nous tous. Mes amis, Jésus, à la croix du calvaire, a porté toutes nos iniquités. Et l'apôtre Jean, il dit quelque chose de remarquable. Regardez plutôt, 1 Jean 2:2. Il, c'est-à-dire Jésus, Jésus est lui-même la victime expiatoire. Il n'avait rien à voir, lui-là. Mais il a expié nos péchés, et non seulement les nôtres, mais aussi ceux du monde entier. Alors, on va parler maintenant de la force du couple. Je ne sais pas si vous le savez, mais le couple a une force à sa disposition. Je passe là, voilà, je vous enseigne avant tout comme je l'avais reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Alors, la force du couple, la voici. Je dis que le Seigneur nous a dotés d'un potentiel exceptionnel. Quand je dis nous, c'est-à-dire l'homme comme la femme, l'époux comme l'épouse. Pour que notre couple soit fort, qu'il soit une source de bonheur pour nous-mêmes, pour notre conjoint, pour nos enfants. Est-ce que vous voulez le bonheur de vos enfants? Est-ce que vous voulez le bonheur de votre conjoint? Est-ce que vous voulez votre bonheur à vous? Alors le Seigneur nous a dotés d'un potentiel exceptionnel pour notre couple soit fort, etc. On va essayer de découvrir un petit peu ce potentiel. Cette force, c'est
l'amour.
Et vous savez, l'amour, c'est un mot à la mode. On s'en sert pour beaucoup de choses, du mot amour. Avec l'amour, je dis que j'aime Dieu. Avec le mot amour, je dis que j'aime ma femme, mes enfants. Avec le mot amour, je dis que j'aime la Savoie. Avec le mot amour, je dis que j'aime ma voiture. J'aime, je ne sais pas quel est le plan national ici, local. Hein? J'aime ce... Vous avez remarqué? En français, on n'est pas très riche de ce côté-là. Et pourtant, la langue française, il paraît que c'est la plus belle, une des plus belles. Alors, de quel amour s'agit-il? Si en français on n'a qu'un seul mot, dans la Bible, pour parler d'amour, il y en a trois. Le mot éros, le mot philéo et le mot agapé. Éros qui a donné érotique, c'est-à-dire sensuel. Le mot philéo qui a donné le mot philanthropique. Ah, j'aime bien lui rendre service. Et le mot agapé, ça c'est la perfection, c'est l'amour parfait, c'est l'amour selon Dieu. Alors il faut faire un choix entre ces trois formes d'amour. Ou vous aimez Eros, c'est-à-dire ma femme, elle est belle, elle est gentille, je l'aime bien. Hein? On découvre, on en rêve. Hein? Et, ou c'est l'inverse. Ou bien alors, c'est Philéo, oh, tellement malheureuse, alors je vais essayer d'être gentil avec elle, d'être gentil avec lui. Vous voyez? C'est bien. Mais Agapé, c'est un amour qui est plus fort. Beaucoup plus fort. C'est l'agapé selon 1 Corinthiens 13. Alors, c'est lundi soir qu'on parle des conflits de couple. Ou mardi soir. Enfin, on en parlera en détail de cela. Hein, pour gagner du temps. Ça, c'est l'amour agapé. Alors, c'est aussi le fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22, 23. Car je me dis, mais pasteur, tu sais, c'est difficile d'aimer comme tu le dis. Mais dans Galates 5, 22, 23, il est écrit cette belle parole. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On croit au Saint-Esprit dans cette église?
Amen.
Est-ce que vous aimez être rempli du Saint-Esprit?
Amen.
Alors, mes amis, le Seigneur vous donne de porter le fruit de l'Esprit, que son nom soit béni. La force de l'amour. Il se fait, ce qui fait la force, c'est l'amour, la force du couple. La force de, voilà. Et regardez un petit peu ce qui est dit à ce sujet-là. Marie, Ephésiens 5, 25, Marie, que chacun aime sa femme, c'est-à-dire la sienne. Je ne sais pas si vous allez, si vous ne pouvez pas en choquer quelques-uns, mais je dis femme, que chacune aime son mari. Si vous n'êtes pas d'accord, vous enlevez cette phrase, bien sûr. Et il aimait comment? Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors je suis sûr que votre Église, c'est la meilleure. C'est pour ça que Christ l'aime. C'est livré par amour. Moi, mon église, c'est Montauban. Je ne suis pas le pasteur. Hein, je ne suis que le stagiaire du pasteur. Mais notre église, elle a quelques problèmes. Il y a des difficultés. Il y a des chrétiens qui ont des handicaps. Et quand je lis, Christ a aimé l'église. Il s'est livré lui-même pour elle. Vous savez que Jésus s'est livré. Pourquoi faire? Regardez plutôt. C'est la suite, vous voyez, verset 26-27. Afin de cette église de la sanctifier en la purifiant et en lavant par l'eau de la parole. Encore la parole qui est là. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et regardez, c'est ainsi que les maris doivent aimer, le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Alors Marie, tu veux que ton épouse soit glorieuse, tu veux qu'elle soit sans tache, tu veux qu'elle soit sans ride, ni rien de semblable, mais tu veux que ton épouse soit sainte et irréprochable. Ah, si vous avez à vous plaindre de votre épouse, vous savez ce qu'il faut faire. En aparté, je dis, si vous avez à vous plaindre de votre mari, n'hésitez pas à faire la même chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Alléluia! Alors, il y a un drame qui menace le couple. Les couples les meilleurs sont... risque de connaître un véritable drame. Le drame qui menace tous les couples, d'après vous, quel est le drame qui menace le plus les couples? Bon, j'arrive pas à entendre, alors je vous le donne de suite. L'infidélité. L'infidélité. On en parlera en détail quand on parlera des couples. Et oui, qu'est-ce que c'est que l'infidélité? C'est simplement ceci. C'est le fait de ne pas tenir ces engagements. Vous allez tout de suite me dire, mais c'est adultère. Vous avez raison, ça c'est. Mais vous croyez qu'il n'y a que l'adultère? Si vous avez lu votre livret de famille, il y a un petit laïus là qui est dans le début, qui met les obligations de l'un et de l'autre. Alors d'ici qu'on fasse le problème de couple, allez en arrivant à la maison, ouvrez le livret de famille, allez lire un petit peu ce qui est demandé à l'un comme à l'autre. Et vous verrez s'il n'y a pas des infidélités là. Enfin, pas chez vous, bien sûr. Qu'est-ce que je vais me mêler, moi, là? La face à l'infidélité, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà la grande question. Je dis tout de suite qu'il faut d'abord contrôler ses émotions, ses réactions, ses sentiments et ses réactions. L'infidélité, sans atteindre l'adultère, ça fait toujours mal. Ça fait toujours mal. Quand on a promis ceci à l'un et à l'autre, des choses normales, des choses légitimes, et que ça ne se complique pas, ça fait mal, ça fait mal. Il y a des couples qui ne se reprochent pas l'adultère, puisqu'il n'y en a pas, mais, il y a des infidélités, parce que on pourrait dire beaucoup de choses, ça fait mal. Alors attention, il faut contrôler ses émotions, parce qu'on pourrait partir vite dans la colère, parce que ça c'est le propre de l'homme, la colère. Ensuite, il faut envisager le pardon. Voilà, il y a infidélité, ça te fait du mal, ça te fait réagir, c'est normal. C'est quelque chose d'insupportable. Dieu ne supporte pas l'infidélité d'Israël. Dieu ne supporte pas l'infidélité des croyants, il faut que vous le sachiez. Il a mal. Mais attention, il faut tout de suite envisager le pardon. Il y a des gens, je la pardonne. Le pardon, ça ne se distribue pas comme des confettis, ça, mes amis. C'est quelque chose de plus sérieux, on en parlera davantage plus loin. Face à l'infidélité, qu'est-ce qu'il faut dire? Les uns, ils se rentrent dans la coquille. Ils ne disent rien. Et c'est là, c'est la marmite qui bout, là. Et ça devient grave, cette affaire-là. Alors, je crois qu'il faut faire connaître à son conjoint sa peine et sa blessure. Pas y dire à son mari, dire à sa femme, ça me fait du mal, ça me fait de la peine. Il faut lui dire, il y a plusieurs moyens, vous pouvez lui envoyer violemment. Je ne crois pas que ce soit la bonne manière, mais ça peut se faire. Et si nécessaire, il faut lui faire connaître son indignation, sa désapprobation. On ne peut pas garder le silence devant un cas d'infidélité, quel qu'il soit. Il faut faire savoir à l'autre ce que l'on ressent, ce que l'on éprouve. Mais ça, naturellement, il y a la manière de le faire. Alors il va falloir trouver quand même un bon exemple pour trouver la manière de faire. Face à l'infidélité, il faut imiter l'exemple du Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord si on pouvait savoir si Dieu a un exemple à nous donner de sa part? Parce que les gens me disent, oui, vous dites, mais le Seigneur, il n'est pas à ma place. Ça, c'est vrai. Le Seigneur n'est pas à votre place. Mais il a connu l'infidélité. Et un jour, il s'est servi d'un prophète qui s'appelait Jérémie. Et là, attention, il y avait des centaines, environ 300 ans, qu'ils supportaient l'infidélité d'Israël. Et là, qu'est-ce que Dieu fait ? Avec la force, il appelle, avec force, il appelle son peuple infidèle. Écoutez ce qu'il dit. Jérémie 3, 12, Dieu s'adresse à Jérémie, lui dit, va ! Et puis lui dit, crie ses paroles vers le septentrion et dit, reviens, reviens Israël, reviens infidèle Israël. C'est-à-dire quelle force ! Dieu veut que son peuple infidèle revienne. Et mes amis, il faut que, quand il y a eu infidélité, on désire que l'autre revienne. C'est ça qui est important. Mais regardez un petit peu la suite, c'est assez intéressant. Vous avez vu, Dieu souhaite le retour de l'infidèle. Et regardez la suite. Il faut imiter l'exemple du Seigneur. Devant l'infidélité de son peuple infidèle, Dieu ajoute, « Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. » Reviens, je ne jetterai pas sur vous le regard sévère, un regard sévère. Eh oui, on aurait envie de recevoir l'autre infidèle avec des yeux noirs, comme on disait quand j'étais petit, tu fais l'œil noir, on disait, comme ça. Non, je ne garderai pas, essayez d'être accueillant. Et il dit, pourquoi ? Parce que je suis miséricordieux. C'est pas Jésus qui a dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront quoi ? Vous savez ça ? Eh ben oui, alors ça vaut la peine. Et je ne garde pas ma colère à toujours. Et la Bible a soin de nous dire au Nouveau Testament que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Parce que cette nuit-là, vous allez mal la passer, moi je vous le dis. Eh oui, c'est ça. Voyez, donc, il faut envisager le pardon. Alors oui, mais l'autre et l'autre. Ah ben, attends, l'autre, on y arrive. Face à l'infidélité, le fautif doit prendre conscience que sa faute est son erreur, de sa faute et de son erreur. Et pourquoi ? C'est pourquoi toujours Jérémie, Dieu dit il lui dit, reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, à ton mari ou à ta femme. Reconnais également que tu as dirigé tes pas, ça et là. L'infidèle, il suit ses idées, il suit ses pensées, il suit ses pulsions, il suit ses désirs, ses sensations, il cède à ceci, à cela. Et mes amis, c'est pas comme ça qu'on garde son foyer solide. Il faut reconnaître son erreur. Voilà. Alors la famille, on parlera davantage après de la suite, quand on parlera sur les couples. Mais là, il faut arriver vers la fin. Je dis que la famille, c'est le lieu de vie par excellence. Qu'est-ce que vous en pensez ? Attention, ne regardez pas votre couple s'il a des problèmes, mais selon la pensée de Dieu. La famille, c'est le lieu par excellent. Dieu l'a voulu que ce soit excellent. Vous vous rendez compte ? C'est formidable. Alors regardez la suite, c'est intéressant. C'est le lieu de vie où s'épanouit l'amour. Parce que on n'aime pas tant que l'autre est gentil, mais on aime parce qu'il faut l'aimer, point final. Regardez, je ne sais pas si vous avez déjà fait des déviations par rapport à la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu vous a retiré son amour ? Ah non ? Et pourtant, vous avez fait, vous avez dit, et vous a gardé l'amour. Et bien mes amis, dans le couple, c'est pareil. C'est le lieu où s'épanouit l'amour. Pouvoir aimer l'autre avec son caractère, avec certaines de ses défauts, parfois des choses même très graves, hélas. C'est le lieu de vie où se manifeste la tendresse. Quel bonheur de pouvoir s'étreindre, mari et femme. Non pas seulement dans le lit, essayez de me comprendre, mais dans la journée, se manifester des marques de tendresse. Je me souviens, un jour, ma petite fille Nadège, elle avait, je ne sais pas, 6 ou 7 ans, je ne me rappelle combien, ils étaient venus chez nous, elle et mon époux, je ne sais pas de quoi on était là dans le couloir tous les deux, on était étreints l'un et l'autre, on se disait des choses, et alors elle arrive, oh les amoureux, qu'elle criait. Eh oui, on avait 55 ans, elle nous appelait des amoureux, vous voyez. Alors j'ai dit, dis donc, tu aimerais qu'on soit fâché avec moi ? Oh non, je ne veux pas. Eh ben oui. Il y a des couples qui sont dans difficulté parce qu'ils ne savent pas se prendre les bras. Simplement leur dire combien ils s'aiment, le leur prouver par une marque de tendresse, une simple parole aimable, se serrer comme ça, Ça n'a pas besoin d'exciter les sens, mes amis, cette affaire-là. C'est le lieu où l'on s'encourage. Le mari arrive le soir, la femme est épuisée, les gosses, ils ont fait je sais pas quoi. Alors il est là, il l'encourage un petit peu. Hein. Voilà, la fin de mois est difficile, mais tu vas voir, on va s'en sortir. Ils sont là tous les deux en train de s'encourager. C'est le lieu, c'est le lieu de vie où l'on se console. Mais qu'est-ce que tu as? Tu es tout triste, tu rêves du boulot, tu es tout triste. Ah, si tu savais, là, j'ai eu la pression au boulot, je n'en peux plus, le chef, les collègues, c'est pas marrant. Et pour dire, allez, va, tranquillise-toi, ou c'est l'épouse qui a besoin d'être consolée. C'est le lieu où l'on construit. On construit sa famille, non pas seulement sa maison. Mais c'est important, la maison, je ne dis pas. Mais en fait, ce n'est pas l'indispensable. Et enfin, c'est le lieu où on répare les erreurs. Eh oui, il y a une fidélité, il y a quelque chose de désagréable. C'est dans la famille que ça se répare. N'allez pas chercher papa, maman. Si leurs conseils sont bons, oui. Mais si c'est non pour dire, te laisse pas faire. Non, non, n'allez pas dans ce sens. Exactement. N'allez pas consulter Pierre, Paul et Jacques, tous les deux avec l'aide du Seigneur. Réparez vos erreurs. Et vous verrez combien ça fait du bien. Parce que la décision viendra de vous. Et non pas parce que les autres l'ont dit. Parce qu'un jour, une personne m'a dit, ah, pasteur, je le fais, mais c'est pour le Seigneur, vous savez que je le fais. Imaginez-vous quel élan il y avait là-dedans. Alors, nous arrivons à la fin, c'est la conclusion. Il y a une parole de Dieu extraordinaire, Hébreux 13, 4, que le mariage soit honoré de tous. Si vous n'êtes pas pour le mariage, mais mes amis, souvenez-vous que c'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Honore le mariage, c'est une institution de Dieu. Et le lit conjugal, bien sûr, exempt de souillure, que le lit conjugal soit exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Les débauchés et les adultères. Alors pensez-y, ça en vaut vraiment la peine. Et enfin, en terminant, je vous dis, c'était la famille, le lieu de vie par excellence. Amen. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi je vous dis simplement ceci. Soyez bénis.